Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Pour cette saison, j'explore l'état de contre-courant. Je m'entretiens avec des personnes qui ont décidé de suivre leur petite voie ou comment mes invités n'en ont fait qu'à leur tête, côté job, passion et même pays de résidence. Et ce, malgré les pronostics, les qu'en dira-t-on ou autres avis contraires. En fait, et c'est tant mieux, ils n'ont écouté que leur envie. Aujourd'hui, je reçois Tatsumi Komiya, souffleur de verre à la Maison des Verriers à Capcha en Gaspésie. Bonjour Tatsumi, ça va bien ?
Oui, bonjour, merci d'avoir m'invité. Et puis, donc, je me présente, c'est bien ça, hein ?
Oui.
Je suis immigrant au Québec, ça fait 5 ans que j'habite au Canada. Et puis maintenant, je me suis installé à Capcha, à Haute-Gaspésie, qui est très belle région. Et puis, mon métier, oui, c'est souffleur de verre. Oui.
Alors, on va découvrir un peu plus ton univers. Je rappelle à nos auditeurs, auditrices, la musique qui nous accompagne est celle de notre ami Soumal. Et je leur indiquerai dans les notes de podcast comment se procurer les CD. Qu'on parte un petit peu à la découverte de ton univers, Tatsumi. J'ai envie de dire, pour cette première partie peut-être, la Terre est ronde comme une boule de verre, comme tu sais les faire. Alors si on revient un petit peu sur ton univers et ton histoire personnelle, moi je t'ai découvert dans une vidéo de la Fabrique Culturelle, qui est un super site parce que je trouve qu'on découvre plein de gens incroyables. Et dans ta vidéo, puis je mettrai cette vidéo en lien, tu revenais sur cet art que tu fais et qui, moi, m'a laissé absolument... vraiment subjugué parce que j'ai l'impression que c'est un travail mais c'est aussi toute une démarche. Alors si on y va au tout début, souffler le verre, comment ça t'est venu cette idée? Comment est-ce que t'as commencé à souffler le verre? Parce que je me dis c'est quand même tout un talent.
Tout d'abord, quand j'habitais au Japon, à côté de chez mes parents, il y avait un atelier de verre. Donc, je fréquentais là-bas pour apprendre et puis, oui, tout de suite, ça s'est devenu ma passion. Donc, depuis ce moment-là, je continue à travailler.
Tu avais quel âge à peu près quand tu découvres cet univers?
C'était quand j'étais au lycée, donc j'avais 16 ans.
Et est-ce que tu t'es dit... Pour l'instant, c'est un passe-temps ou quelque chose que j'apprends ? Ou est-ce que très vite, tu t'es dit « Ah non, non, ça va être mon métier, j'adore, ça va être mon travail.
» Moi, pour vivre, j'ai besoin de ma passion. Donc, quand j'ai fait le verre soufflé, ce n'est pas quelque chose que « ça y est, j'ai trouvé mon chemin et tout », mais c'est plutôt, c'est venu naturellement... dedans de mon cœur, et puis c'est devenu quelque chose de nécessaire pour moi. Donc, oui, c'était très naturel.
Quand il y a des passions qui naissent comme ça, moi, ce qui me subjugue, qui m'étonne toujours, c'est qu'on a l'impression, puis moi, je me souviens voir ces images dans cette vidéo, on te voit faire et ça a l'air facile. Honnêtement, je te regardais faire et vraiment, oh, ben, ça va, mais en fait, non, c'est quand même... Il y a des gestes à apprendre, il y a des connaissances à acquérir. Toi, ça t'a pas rattrapé, ça t'a pas empêché de vouloir faire ça au tout début? Est-ce que tout ce que t'apprenais, c'était agréable?
Oui, tout ce que j'ai appris, c'était agréable. Après, une question de c'est facile ou difficile et tout, c'est d'autres questions. Mais tout ça, c'était le bonheur pour moi.
Le monsieur auprès de qui tu as appris à souffler le verre, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que vous aviez?
Oui, mon patron et puis mon maître verrier, il s'appelle Kenji Ito. Et puis, ce qui était bien pour moi, c'est l'un des meilleurs verriers au Japon. Wow. Je ne savais pas ça au début, mais donc oui, j'avais de la chance.
Comment ça se passe la relation entre un maître et un apprenti? Parce que là où je viens en France, il y avait tout ce côté du compagnon de France qui eux aussi apprenaient un métier pendant très longtemps auprès d'un maître qui savait. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de métier, on oublie un peu comment on transmet ce savoir. Maintenant, beaucoup plus les gens vont à l'école ou ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de cette relation qui se crée entre le maître et l'apprenti, les conditions que ça prend pour réussir aussi?
Ça, c'est bien sûr que ça dépend des endroits et ça dépend des personnes. Mais moi, avec lui, ça s'est bien très passé parce que j'ai beaucoup de respect à lui et puis il m'a traité comme son enfant. Et... Oui, j'ai beaucoup entendu parler de mauvaise situation de maître et son, comment dire, son discipline. Mais moi et lui, c'était... Je ne sais pas pourquoi, mais c'était vachement bien.
Quand tu embarques dans ce projet d'être plus sérieux, on va dire, dans l'apprentissage de l'art de la verrerie, est-ce que c'est commun au Japon? Est-ce que c'est quelque chose, une voie vers laquelle les gens, les jeunes vont penser aller? Parce que tu sais, au Québec, j'ai l'impression il y a cet intérêt pour l'artisanat, mais il y a toute une génération qui avait laissé tomber un petit peu de côté ce genre de discipline. Est-ce que c'est pareil au Japon? Comment est-ce que c'est vu là-bas?
Je crois que dans le monde entier, la vie d'artisan ou artiste, c'est pas facile, mais la différence entre au Québec et au Japon, en France, c'est que c'est plus populaire. Et puis, il y a beaucoup plus de gens qui font ce métier. C'est avec la réglementation et tout, là-bas, c'est plus facile à avoir son atelier de verre.
Est-ce que toi, tu aimerais ça avoir un apprenti un jour? Question difficile.
Ben, il faut que tout d'abord, je dois faire des progrès, mais un jour, s'il y a des gens qui veulent venir chez mon atelier de verre, oui, c'est bienvenu ça. En plus, c'est ce que mon maître a fait, donc pourquoi pas de continuer
à transmettre.
Oui, c'est ça.
Et alors, on en parlait tout à l'heure, tu es originaire du Japon. Tu as mentionné aussi rapidement la France. Si j'ai bien suivi ton parcours, ça a été du Japon à la France, à l'Ontario, puis au Québec. Tu es à Captcha. Honnêtement, Captcha, ça ne s'invente pas. Si on ne connaît pas avant, difficile de deviner que ça existe, ce petit village. Comment est-ce que tu es arrivé jusque-là?
Tout d'abord, je suis japonais, donc c'est normal que je commence au Japon. Après, au bout de quelques années, comment dire, moi, je suis japonais, donc c'est facile à étudier au Japon et travailler au Japon. Mais j'ai voulu voyager, donc, mais c'était pas aux États-Unis. J'aime bien aux États-Unis, mais c'est des Japonais, tout le monde le connaît, et puis tout le monde veut y aller. Moi, je veux choisir un chemin différent, pas différent, mais un chemin qui n'est pas populaire.
Mm-hmm.
Donc, quand j'ai dit que j'ai voulu aller en France, tout le monde dit pourquoi. Parce que là-bas, on parle en français, pas en anglais. Oui, normal, hein? Mais oui, c'est ça, le chemin qui n'est pas populaire, j'aime beaucoup. Donc, je suis allé en France et puis j'ai étudié. Je travaille aussi. Et maintenant, le choix de... au bout de quelques années, j'ai encore envie d'aller d'autre part. Et puis, le choix, c'était aux États-Unis, au Canada. Aux États-Unis, comme j'ai dit, c'est très populaire, alors c'était au Québec.
Tu as continué le chemin pas populaire pour faire ton propre chemin à toi.
Oui.
Et alors, moi, tu sais, ce qui m'étonne, c'est souvent, on parle des grandes villes comme des pôles culturels. C'est certain que c'est plus facile, parfois, comme artiste ou comme artisan, de se faire voir dans des grandes villes. Mais toi, tu as choisi Captcha. Qu'est-ce qui t'a amené jusque là-bas et aussi, comment est-ce que peut-être tu es arrivé la première fois là-bas? Est-ce que c'était parce que tu faisais du tourisme et tu es tombé en amour avec la région ou comment ça s'est passé?
Au début, j'ai cherché un endroit pour m'installer et le choix c'était comme Mont-Tremblant ou Charlevoix ou en Gaspésie ou là où il y a de la montagne ou de la mer. Et puis, ici, Gaspésie, c'est à la campagne, mais mon travail n'a pas besoin d'habiter à Granville. C'est juste qu'il faut y aller quelques fois par année. au niveau de culture, c'est... Je me souviens que quand je suis allé à Charleroi, il y a quelqu'un qui m'a dit que ici, il n'y a pas grand chose, mais il y a, il m'a dit qu'il y en a ça, en, comment dire, en faisant me montrer la montagne et tout.
Mm-hmm.
Oui, ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de grand théâtre et tout, mais la nature, c'est tout le temps là-bas. Et quand je vais dans mon atelier de verre, je vois toujours la rivière et puis la montagne. C'est ce qu'on ne peut pas voir des gens de grandes villes.
C'était important pour toi, la nature? Savoir que tu aurais la nature proche de toi, c'était quelque chose qui compte quand tu choisis où t'installer?
Oh, oui. Moi, j'aime bien la nature et aussi j'aime bien la vie tranquille et paisible. Grande ville, j'aime beaucoup aussi, mais ici, ça me plaît plus.
Et alors, si justement, on revient un petit peu à cette vie où tu disais, bon, la ville, il faut parfois y aller, mais j'aime la vie tranquille. Il y a aussi que la Gaspésie, comme beaucoup de régions, puis l'île du Prince-Édouard où je suis, c'est un peu comme ça aussi, où quand c'est l'hiver, c'est très tranquille, et quand c'est l'été, bon, il y a plus de touristes et plus de visiteurs. Et tu disais dans la vidéo, je me souviens de la fabrique culturelle, que l'hiver, tu en profitais, que c'était plus calme, pour faire des pièces de verrerie que tu aimais vraiment, qui venaient de ton imagination peut-être plus. Et puis l'été, bon, il y avait cette relation aussi avec les touristes et les ateliers, et puis peut-être proposer des objets en verre qui plaisent plus pour vendre. Comment est-ce que tu te définirais? Est-ce que tu dirais que tu es artiste l'hiver et artisan l'été? Comment est-ce que tu vois la relation de ton travail avec les saisons et du coup les gens qui viennent ou pas?
Oui, c'est vrai qu'en été, comme maintenant, le mois de juillet ou août, il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre région. Et puis surtout, j'explique et je fais des démonstrations, mon métier et tout. Et en hiver, c'est plutôt faire des productions, faire des belles pièces et tout. Mais en gros, ça revient à la même chose parce que ce que je fais et puis ce que je vends, souvent c'est beaucoup plus cher que quand on achète chez Balmain, Dollarama et tout. Alors, pour bien vendre et tout, ce dont j'ai besoin, c'est faire savoir l'histoire du verre, ou plutôt l'histoire qui est cachée derrière le verre. Parce que juste pour un verre à boire et tout, on ne paye pas 100 pièces pour acheter ça. Il faut bien expliquer que ça a pris beaucoup de temps, on a utilisé comme celui-ci. Oui, donc faire des belles pièces, ça ne se finit pas, comment dire, une fois on a fait une belle pièce, on a besoin de vendre aussi. Et donc... En hiver, en tant que personne qui fabrique des belles pièces, et puis en été, en tant que quelqu'un qui explique, qui fait des démonstrations et tout, ça vous vient au même. Ce que je fais, c'est... ça a l'air assez différent, mais à la fin, c'est une.
C'est la même passion qui est prise de différents côtés, peut-être. Voilà, mais c'est le même cœur qui anime tout ça. Est-ce que tu produis quand même des pièces un petit peu en été?
Oui, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, le temps de fabrication, c'est très limité. Et puis, comme c'est un atelier de verre très personnel, s'il y a moi, je fais des pièces, je fais des démonstrations et je suis aussi vendeur et tout. Donc...
tu es l'homme à tout faire, en fait.
Oui, c'est ça.
Je me suis posé la question parce que on parlait un petit peu de ton parcours tout à l'heure entre le Japon, la France, le Canada. Je pense que quand quelqu'un voyage ou immigre, il met dans ses bagages aussi un peu de la culture de chaque pays où il est, un peu d'influence de chaque endroit, de chaque personne qu'il va rencontrer. Et je me demandais comment est-ce que aujourd'hui dans ton travail, malgré ce que tu as appris, toi, de ton maître, tu as ta propre version de ton travail. Comment est-ce que, par exemple, la partie japonaise de ta vie influence ton travail aujourd'hui?
La culture japonaise, on est bien quelque chose de simple et puis quand même quelque chose de bien travaillé, ça. Même si c'est petit ou grand, on aime bien mettre toutes les forces, juste une petite pièce. Et ça, aux États-Unis, au Canada, quand on vend des pièces et tout, souvent déjà on aime bien quelque chose de plus grand et puis plus coloré et tout. Mais j'explique que ce n'est pas la taille et tout qui est important, mais c'est le détail qui est mis dedans. Oui, je fais souvent ce genre de travail de petites pièces ou l'art au quotidien. Parce que utiliser quelque chose de beau tous les jours, comme verre à boire ou quelque chose, ça vous donne beaucoup plus de bonheur tous les jours.
Oui, c'est comme si, il me semble, quand tu utilises quelque chose de spécial ou qui est spécial pour toi, toi-même, tu te sens un peu spécial au quotidien, en fait.
Oui.
Ça, c'est pour le côté peut-être japonais, mais est-ce qu'ensuite, dans ton parcours, la culture peut-être française, la culture canadienne, est aussi rentrée comme source d'inspiration dans ton travail?
Quand, après le Japon, j'étais en France.
Mm-hmm.
Et puis là-bas, comment dire, des gens, ils étaient très doués pour mettre en valeur une pièce. D'une certaine manière, il y avait beaucoup de liberté. Pas de liberté, mais disons, oui, c'est quelque chose comme celui-ci. C'est pas facile à expliquer, mais bon.
Est-ce que tu veux dire de liberté dans ce que tu pouvais créer, mais que les gens allaient apprécier quand même? Tu veux dire?
Oh, oui, peut-être, c'est ça. Sans doute, c'est ça. Quand... Peut-être c'est parce qu'en France, comme au Canada, on a une grande maison que des Japonais. Donc, on a beaucoup plus d'espace pour déposer des pièces, ou je ne sais pas, mais on aime bien, même si c'est quelque chose qui est totalement... Il n'y a pas de sens.
Comme si c'est pas grave si c'est inutile,
voilà,
parce qu'on
ça,
a la
exact.
Place pour le mettre. C'est ça que tu veux dire?
Oui,
okay.
C'est ça.
Alors qu'au Japon, ça doit être utile et beau.
Oui, utile et beau et un peu petit.
Et petit. Et est-ce que du coup, tes pièces, aujourd'hui, à force de vivre au Canada, elles sont devenues plus grandes ou tu restes avec ton cœur japonais de faire les plus petites pièces?
Peut-être, oui, souvent petites pièces, mais tant que j'habite à CAPTCHA, c'est mieux de changer ce que je fais. Donc, j'essaie de faire une pièce assez grande et puis il y a beaucoup de couleurs. De temps en temps, j'aime pas la pièce que j'ai faite, mais souvent des gens, ils me disent que oh, c'est magnifique et ils l'achètent. Je ne comprends pas, mais si on se fait, c'est bon ça.
Écoute, si quelqu'un se sent spécial avec ta pièce, on en revient à ce qu'on disait, c'est bon. Il se sent spécial, ça va.
Voilà, c'est ça.
Pour faire son travail, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas très mobile, dans le sens où il faut que tu aies des installations particulières. Mmh. Est-ce que c'était facile, difficile de créer, j'ai envie de dire, ton univers, ton studio, la maison des verriers? Parce que quand tu as appris au Japon, ça prend un équipement, notamment
oui.
Le four, notamment, bon, tout un... Est-ce que ça a été facile pour toi de recréer ces conditions ici au Canada?
Ici au Canada, au Québec, je ne sais pas trop, mais au Québec, je crois que c'est l'un des pays qui est très difficile pour avoir son propre atelier de verre. Parce que j'ai acheté beaucoup d'équipements et tout qui vient des États-Unis. Et puis souvent, j'ai besoin d'approbation, système de sécurité plus que nécessaire et tout. Si c'était au Japon, par exemple, quelque chose que je peux faire à 1000 pièces, Ici, ça me coûte 5 000 ou 6 000. Oh. Ça devient beaucoup plus cher.
Tu as vraiment choisi le chemin le plus difficile, en fait.
Oui, c'est ça. Hein. Honnêtement, c'est ce que je ne connaissais pas, mais bon, je ne pouvais pas reculer, donc il faut avancer.
Quand j'ai fait cette saison de podcast, souvent les gens ont choisi justement un chemin qui n'était pas forcément le chemin le plus facile, qui n'était pas forcément le chemin le plus populaire. Et parfois, les gens autour d'eux n'ont pas compris leur choix, ou les réactions des proches ou des parents ou des amis étaient comme plus dans la surprise. Comment est-ce que toi, ta famille, tes parents ont accueilli le choix que tu as fait de carrière, d'abord comme verrier, et puis ensuite d'immigrant, de partir?
Tout d'abord, mes parents, bien sûr, ils voulaient que je devienne comme normal, entre guillemets, le travail stable. Parce que la vie d'artiste ou d'artisan, ce n'est pas stable. Dans ce sens, ils n'étaient pas contents, mais moi, je suis heureux quand je fais mon métier, donc finalement, ils sont d'accord. Bah, ils sont d'accord, entre guillemets, oui, tant que je suis heureux. Et choisir faire CAPTCHA, c'était quand j'ai dit que je vais aller à CAPTCHA, au Gaspésie. Souvent, il y a des gens qui disent que oh, c'est beau, c'est bien et tout, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que là-bas, c'est mort. Parce que c'est juste un été qui coule bien. Et puis pendant 2 tiers, c'est mort. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de marché. Mais bon, voilà, je suis venu ici et puis ça marche.
Mais c'est ça, mais j'ai envie de dire, tu es là-bas depuis, je pense, 2019, c'est ça à peu près?
Oui.
Finalement, toi, c'est 2 tiers de moments plus tranquilles dans l'année. Ça te convient aussi peut-être pour ton activité, parce que ton travail, c'est toi qui te le fais, tu n'as pas besoin que des touristes viennent. Oui et non.
Oui.
Est-ce que tes parents sont déjà venus au Canada?
Non, parce que j'aimerais bien, mais quand j'ai monté mon atelier de verre des années de 2019, et après c'était tout de suite le Covid et tout, donc...
Oui, je comprends. Mes parents sont venus seulement 2 fois au Canada, et ça va faire peut-être 15 ans que je suis arrivée au Canada. Je comprends. Est-ce que... quand tu es partie du Japon, tu avais quel âge à peu près?
Quand j'ai quitté le Japon, 18 ans, je crois.
Est-ce que tu as encore des amis là-bas? Est-ce que tu as encore un réseau? Ou maintenant, ton réseau est emmené au fur et à mesure de tes séjours dans la France ou au Canada?
Au Japon, comme en France, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont magnifiques. Et puis, on ne peut pas se rencontrer facilement, mais ce sont des amis pour toujours. Oui, ça c'est bien ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup la France, ça me manque beaucoup. Hein. C'est du vin, du fromage.
Mais attends, tu dis du vin et du fromage, mais je me souviens aussi, tu disais dans la vidéo, ce qui te manquait du Japon, c'était la nourriture. En fait, t'aimes bien manger, quoi.
Oui, parce que manger, c'est... Quoi qu'on fasse, il faut qu'on mange, je sais pas, 2-3 fois par jour. Et si on aime bien manger, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2-3 fois de chance de recevoir le bonheur quotidien.
Oh, c'est une belle philosophie. C'est une très belle philosophie. Puis là, parmi les choses, il peut y avoir les proches, il peut y avoir les gens qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'on choisit comme chemin. Mais là, moi, je suis très fascinée parce qu'on fait cette entrevue en français. Et je me dis, waouh, comment est-ce que tu as réussi à t'adapter aussi bien aux Français de France, aux Québécois, et que finalement... Parce que ce sont des Français un peu différents et tu es d'origine japonaise. Alors Les sons, pour toi, c'est très différent dans la langue maternelle et le français, mais tu t'exprimes très bien. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter?
De parler en français?
Oui.
C'est pas facile, surtout au Japon, on n'apprend pas en français, c'est surtout en anglais et tout. Mais heureusement, quand j'étais en France, la première année et tout, c'était comment dire? On a fait des colocations, c'est-à-dire qu'on habitait plusieurs personnes de français. Et puis, comme à l'époque, on était étudiants, donc ils étaient très sympas, même si je ne parle pas en français, mais ils m'ont beaucoup enseigné ça.
Est-ce que tu étais dans quel coin de France quand tu étais étudiant là-bas?
C'est dans la région de Lorraine.
D'accord.
Lorraine, à côté de Nancy, oui.
D'accord. Eh, on n'était pas très très loin.
D'accord, c'est bien ça.
Alors écoute, avant de poursuivre sur ton parcours inspirant et te parler un petit peu, j'ai envie de dire, de la poésie de ce que tu fais et du temps de ton travail, on va faire une courte pause musicale avec la 11e chanson de l'album Songbook Volume 7 de Sumar. Voici de retour à Café Noir et Tableau Blanc, et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Tatsumi Komiya, souffleur de verre et copropriétaire de la maison des verriers à Capcha. Alors Tatsumi, pour cette deuxième partie de podcast, j'aimerais qu'on revienne sur la condition d'artiste. Il y a ce dicton japonais, quand moi je l'ai découvert, j'étais très surprise, le dicton japonais dit « le clou qui dépasse appelle le marteau ». Derokugi wa utareru, quelque chose comme ça. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ta voix? Comment est-ce que tu as trouvé cette force de rester ce petit clou qui dépasse et faire comme tu veux?
Tout d'abord, le dicton que tu as dit, comment dire, le clou qui dépasse, ça
appelle le marteau, ouais.
Marteau. Personnellement, moi, j'aime bien ce dicton parce que je sais pas pour d'autres métiers, mais d'habits de souffleur de verre, c'est pas facile. Il faut apprendre tous les jours. Et puis, même si on travaille bien, c'est pas facile à gagner. Ben, c'est le même pour tous les artisans. Et donc, imaginons que si on dit qu'on veut devenir un souffleur de verre. Il y a beaucoup de gens qui disent comme un marteau, c'est pas bien, on peut pas gagner et tout. Et si avec ça, le clou, ça fait comme un ding, ça baisse, ce n'était pas ton chemin. Oui, donc moi, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui m'ont apporté beaucoup de marteau.
De coups de marteau, oui.
Oui, ça c'est comme une. Comment dire? C'est quelque chose qu'on doit surmonter, ça. Parce que la vie, c'est pas facile, mais.
Est-ce que pour toi, le fait que tu aies tenu le contre le coup du marteau, pour toi, c'était cette preuve que tu étais sur le bon chemin?
Oui, tout à fait. Parce que. Je suis dans le bonheur, oui.
Comment est-ce que tu as développé ton originalité à toi? Comment est-ce que tu l'as trouvée, cette voix? Et comment est-ce que, à l'intérieur de toi, tu es capable de rester, de tenir? Elle vient d'où, ta force?
C'est simplement, moi, je sais ce qui est le bonheur pour moi et puis je suis dans le bon chemin et tout. Et pour moi, aimer quelque chose ou quelqu'un, ça c'est très essentiel. Et dans ce sens, tous les jours, je pense que j'ai beaucoup de remerciements pour le père, pour mon métier et tout. On m'a dit souvent que aimer quelque chose pour travailler, c'est pas suffisant. Mais pour moi, aimer quelque chose pour travailler, c'est très suffisant. Ou plutôt, j'ai pas besoin d'autre chose. J'aime mon métier. Un point final.
Aimer ton métier, c'est ce qui te permet de rester créatif? C'est ce qui te permet de rester même si tu pourrais gagner plus d'argent en faisant autre chose? C'est ça que tu veux dire quand tu dis que aimer ton métier, ça te suffit dans tout ce que tu es?
Oui, si sans le verre, moi je suis rien, mais avec le verre, quelque chose que j'aime vraiment et je suis prête à consacrer toute ma vie pour ça, même si je ne gagne pas ou si je ne réussis pas et tout, moi c'est déjà gagné, je suis dans le bonheur.
Oui. Est-ce que tu penses qu'une... Peut-être une part de ce bonheur, ça peut venir aussi d'une certaine liberté, parce que quand certaines personnes vont faire un travail, comme des médecins ou des avocats, des comptables, ils vont avec les lois d'un seul pays. Mais toi, ton métier, tu peux l'emmener avec toi partout, dans n'importe quel pays, et tu peux quand même faire ton métier. Bon, bien sûr, il faut le four, il faut l'atelier, mais ton savoir à toi, tu l'emmènes avec toi. Est-ce que tu penses que cette porte ouverte, cette liberté de choisir encore où tu seras demain, est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses qui contribuent à ton bonheur?
Tu connais des Français, des Québécois, je ne sais pas, mais au moins des Français, on aime bien expliquer des choses. Et puis alors, quand j'étais en France, j'ai dit que la technique de soufflage, c'est pareil partout. Donc, c'est plus facile à voyager et tout. Et on pense qu'on se sent, on comprend. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu as choisi ce métier et tout. J'ai fait ça parce que j'étais en France. Pour des Français aiment ça. Mais à la fin, la raison, c'est beaucoup plus simple ça. Comme je t'ai dit, c'est parce que j'aime ce métier. Vraiment, c'est point final. Ouais.
Comment est-ce que tu te sens quand tu as créé une œuvre que tu aimes particulièrement? C'est quoi le sentiment que tu as en toi? Quand tu, finalement, peut-être tu sors du four ou tu regardes, finalement, l'œuvre est refroidie et tu es content de ton travail. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu décrirais ces moments-là de rencontre avec ton œuvre?
Si c'est quelque chose de bien fait, bien sûr que je suis content et je suis très fier de ça. Même dans 10 ans ou dans 100 ans, le verre, la pièce en même, ça reste pour toujours. Donc je suis fier de ça. Mais en même temps, moi je fais des progrès tous les jours. La pièce d'hier, c'est déjà passé. Alors, je peux regarder la partie qui n'était pas bien. Donc, je suis fier de moi. Mais en même temps, on pense, il faut que je fasse comme ça et tout. Donc, c'est sans fin, oui.
Je comprends, c'est un peu, je pense, quand je regarde mes premiers articles, j'étais très fière à l'époque et maintenant je me dis « Oh là là, mais non, j'écris mieux maintenant. Oh là là, mais non, j'ai progressé. » Mais il y a cette petite ligne entre utiliser peut-être les erreurs ou les maladresses du passé, mais quand même être content de ce qu'on fait tous les jours. C'est difficile, la ligne entre les deux, c'est un équilibre à trouver.
Oui, c'est ça.
Quand il y a eu la pandémie, il y a eu, je pense, bon, beaucoup de mauvais côtés, ça c'est sûr, mais il y a eu au Québec, et comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, un retour vers l'achat local. D'un coup, les gens redécouvraient que des gens autour d'eux savaient faire des choses. Est-ce que toi, ton métier, les gens se sont peut-être plus intéressés ou ont été plus curieux, ou est-ce que ça a été l'occasion pour les Québécois de redécouvrir aussi ton côté local? Est-ce que cette vague d'achat Québec au Québec, est-ce que ça t'a aidé d'une certaine façon pour te faire connaître?
Travailler professionnellement au Québec, c'est à partir de 2019. Et Puis souvent, c'était le Covid. Donc, je ne sais pas avant le Covid. Donc, je ne
peux pas comparer.
Mais sinon, le CAPTCHA soi-même, c'est une petite ville. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui viennent dans notre atelier de verre. Et puis, souvent, ils me disent qu'il est content que je suis ici, de un endroit unique et local. Donc, oui, travailler tout d'abord pour les locaux, c'est ce que j'aime aussi. Donc, j'espère que c'est bien pour ici.
Et c'est ça un peu, tu parlais tout à l'heure de prendre un chemin différent des autres. Il me semble qu'être japonais, à CAPTCHA, artisan, souffleur de verre, c'est très différent sans doute des gens dans ta communauté locale. Comment est-ce que ça s'est passé, ton intégration? Est-ce que les gens étaient curieux? Est-ce que les gens étaient bienveillants? Comment est-ce que ça s'est passé?
Ici, il n'y a pas beaucoup d'habitants et puis je sais sur le japonais. Dans ce sens, de temps en temps, il y a quelque chose qui n'est pas... Comment définir? Une sorte de discrimination? Non, pas ça, mais quelque chose comme ça.
Comme une différence, les gens? Une incompréhension, peut-être?
Oui, ça m'arrive juste très rarement.
D'accord.
Mais 90%, c'est quelque chose de bien, donc je ne fais pas de souci de l'incompréhension. S'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, bon, allez-y. Moi, je travaille pour des gens que j'aime et pour des gens qui m'aiment. Et c'était quoi la question? Je me souviens.
Comment est-ce que ça s'est passé, ton intégration dans cette communauté? Moi, je me souviens quand je suis arrivée sur l'île du Prince-Édouard, une partie de moi a trouvé que les gens étaient déjà très serrés, tout le monde se connaît, et donc tu arrives en plus. Tu es vraiment le nouveau, comme quand tu arrives dans une nouvelle classe à l'école et tout le monde voit que c'est toi le nouveau et c'est toi qui arrive de l'extérieur. Mais j'ai trouvé intéressant parce que sur l'île, les gens vont quand même faire une place pour que tu viennes dans leur communauté, que tu t'intègres facilement. Est-ce que c'était un peu pareil pour toi?
Oui, ici, tout le monde a déjà bon liaison. C'est parce que des gens de CAPTCHA, c'est petit, donc tout le monde a une bonne liaison.
Tout le monde se connaît, quoi.
Oui. Dans ce sens, entrer dans ce liaison, c'est pas facile, même si on est, comment dire, on est bienvenu.
Oui, oui.
Mais, comment dire, c'est... Et puis surtout, quand on prend d'âge, c'est plus difficile d'avoir des amis et tout. Mais ça fait 3 ans que j'habite ici et puis, oui, disons, petit à petit, ça a commencé.
Il me semble que quand on prépare quelque chose pendant longtemps, l'excitation, plus on a préparé longtemps, quand le jour arrive, c'est vraiment très important. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu avais aussi ce genre d'excitation parce que c'était quand même long, la préparation, 1 an? Ou est-ce que peut-être ton métier t'apprend la patience et tu es plus patient que moi, par exemple?
Ah, mais quand même, quand ça a commencé, c'est ça y est, et puis enfin et tout. Oui. Mais. Oui, c'est vrai que j'avais peur aussi de ce qui m'est arrivé. Mais soit ça m'a fait peur et tout. Je sais que je pouvais être heureux parce que ça c'est mon chemin et puis j'aime beaucoup mon métier et le verre, donc je peux pas faire quelque chose de mal poli au verre. Tant que je travaille, ça c'est mon devoir d'être heureux.
C'était un peu comme le coup du marteau qui teste si tu es quand même encore bien à ta place. Oui, c'est bon.
Oui, c'est ça.
À quoi est-ce que ça ressemble ton quotidien? J'ai envie de dire, surtout peut-être maintenant à l'été où il y a peut-être plus d'interactions avec les visiteurs. À quoi ça ressemble une journée dans ta vie?
En été, je travaille avec beaucoup de gens qui voyagent et tout. Et souvent, c'est la première fois pour eux de regarder le verre et tout, le verre fondu, qui est à peu près 1100 Celsius. Et...
1100 Celsius? Waouh!
Oui, c'est assez chaud, hein? De temps en temps, c'est ce que je fais tous les jours, donc expliquer des choses, la même chose et tout, de temps en temps, c'est un petit peu fatigant, mais quand même, pour eux, ça c'est la première fois qu'ils voient le verbe. Donc, il faut que je fasse avec toutes mes forces, pour que ça lui donne un bon souvenir. Ouais. Même si c'est pour moi tous les jours, pour eux, c'est juste une journée. Alors...
Tu rends ça spécial.
Ouais.
Donc, toi, quand tu ouvres l'atelier, est-ce que tu mets en marche ton four tous les jours? Est-ce que tous les jours, tu travailles avec tes outils?
Oui, si je parle un peu de mon métier, le verre, ça c'est une fois on allume la fournaise. La fournaise, c'est pour fondre le verre. C'est allumé 24 heures sur 24 heures.
D'accord.
Si on travaille pas pendant un mois, deux mois, on peut attendre. Mais pour une semaine, deux semaines, c'est pas la peine d'arrêter parce que monter la température et descendre la température, ça prend des semaines. Donc, normalement, c'est allumé 24 heures sur 24 heures.
Est-ce que tu l'allumes davantage l'été ou tu la laisses tourner autant que possible et tu éteins seulement quand tu sais que tu dois partir, par exemple?
Oui, en hiver, d'habitude, je pars au Japon. À ce moment-là, j'éteins la fournaise. Mais sinon, c'est toujours c'est 1100 Celsius. Ouais. Donc, oui.
Quand tu disais tout à l'heure, quand les gens viennent te voir, souvent c'est leur premier contact avec l'atelier de verrerie. Puis au tout début de ce podcast, on parlait de la transmission du savoir entre un maître et son apprenti. Sans parler d'apprenti, mais tu proposes des ateliers pour que les gens essayent aussi. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi?
Tout d'abord, la vie d'artiste ou d'artisan, pas seulement de fabriquer des belles pièces, mais dans notre monde, il y a beaucoup de verf. Le verf artisanal, artistique, et puis le verf qu'on peut acheter à bas prix, comme dans le grand magasin et tout. Mais quand même, si on travaille tout à fait à la main, le prix et tout, ça augmente beaucoup trop cher. Souvent, des enfants, ils viennent dans notre atelier de verf et ils disent que oh, c'est super cher et tout. Mais je comprends parce qu'on a beaucoup d'occasions de regarder le verf qui coûte juste une pièce, deux pièces. Alors, ça, c'est d'un côté que je comprends. Alors, ce que je dois faire, c'est expliquer pourquoi c'est aussi cher que ça. Des gens qui ont fait des activités de verre, c'est-à-dire que travailler soi-même avec le verre pour fabriquer une pièce, certainement, ils disent que oh, c'est beaucoup plus difficile qu'ils croyaient. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire très facilement, mais... Oui.
Dans le fond, tu partages non seulement ton amour pour le verre, mais tu partages peut-être aussi ton respect sur tout ce que ça implique derrière de fabriquer quand tu fais ces ateliers. Tu leur montres ce monde au complet et aussi peut-être pourquoi est-ce que tu es si intéressé dans ce travail.
Oui, c'est un peu comme du vin. Du vin français, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de prix. Quelque chose qui coûte juste 5 pièces ou jusqu'aux 1000 pièces, ou je ne sais pas, mais ça c'est en gros, ça c'est le jus de raisin. Alors pourquoi ça coûte cher ou pourquoi ça coûte pas cher? On a besoin de savoir l'histoire qui cache derrière de ce métier là. Donc, quand j'habitais en France, je suis allé, comment dire, chez Vino Bleu et tout, pour écouter ce qu'il pense et tout. Oui, ce n'est pas juste la pièce en même qu'on vend, mais aussi des histoires. Oui, c'est ça. C'est le verre, le vin, le fromage, je crois que tout est séparé. Hein?
Tu ramènes encore avec la nourriture, Tatsumi, j'ai bien compris. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est des histoires, et puis aussi le processus, et puis aussi je pense que ce sont des outils, des productions, des œuvres qui à la fin racontent aussi des gens qui ont pris le temps d'être avec d'autres gens pour faire les choses ensemble. Et c'est rare aujourd'hui, parfois j'ai l'impression qu'on est très isolé, mais quand quelqu'un prend le temps d'expliquer, alors je pense que le lien humain est encore plus important.
Oui, tout à fait. C'est ce que je crois et ce que j'espère. Oui, à l'époque, maintenant, c'est on peut faire beaucoup de choses sans regarder des gens sur Internet et tout. Et même avec ma famille et tout, elle habite au Japon. Et on peut s'appeler, on peut texter tous les jours. Mais d'avoir un contact physique, c'est pour ça que ça devient plus intéressant, plus important.
Quand tu as ouvert la maison des verriers, c'est un projet que tu avais avec Satomi, ton épouse.
Oui.
On en parlait au tout début en préparant ce podcast. Elle est encore au Japon pour l'instant. Comment est-ce que tu as peut-être géré ce projet à deux, que finalement tu es un peu tout seul en l'attendant? Comment est-ce que tu t'es organisé? Parce que peut-être ça a bouleversé les plans. Alors c'est peut-être encore, comme on dit, les coups de marteau et tu restes debout et fort face à l'imprévu. Comment est-ce que tu t'es réorganisé autour de ça?
De temps en temps, on dit que un homme et avec une femme, ça fait un. Mais moi, je suis déjà très fort au niveau de physique, mentalement, je suis déjà un. Et avec ma conjointe, on peut devenir peut-être 5 ou 10. Et oui, c'est vrai que ça me manque. Oui, elle est au Japon actuellement, ça me manque, mais je peux travailler tout seul et puis ça me gêne pas de travailler tout seul. Mais c'est pour ça que je préfère travailler avec elle, oui.
Disons. Est-ce qu'elle aussi, elle fait le verre?
Oui, elle est souffleur de verre et puis on est rencontré dans l'atelier de mon maître Bédier au Japon. Oui, non seulement mon maître, il m'a donné sa passion, mais il m'a donné aussi mon partenaire. Wow.
Tu as tout gagné, en fait.
Oui, c'est ça.
Est-ce que la maison des verriers, comme vous l'avez pensé, puis je ne sais pas comment est-ce que vous avez choisi ce nom, mais moi, le mot maison apporte, je trouve, quelque chose de réconfortant, d'accueillant. Mmh. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était une volonté peut-être aussi de justement d'ouvrir sur votre monde, peut-être à d'autres artistes qui aimeraient venir, pas seulement le public, mais est-ce que tu aimerais peut-être que ce soit un jour une résidence d'artiste ou pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mot, maison des verriers?
C'est parce que moi, j'aime mon métier et puis j'aime ma pièce le plus, bien sûr, que je suis quelqu'un qui fabrique. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi d'autres verriers et tout. J'ai beaucoup de respect des gens qui font d'autres pièces en verre, mais différents à moi. Donc, j'aimerais inviter beaucoup de personnes ici. Bah, pour l'instant, ça vient de commencer, donc pas encore, mais l'année suivante, dans 2 ans, ou tout ça, petit à petit, j'aimerais inviter ou déposer des pièces d'autres artistes. Et c'est bien. Tout seul, on ne peut pas avancer grand-chose. Mais s'il y a beaucoup de béliers et tout, des gens et tout, on peut choisir, on peut comprendre plus. Et on, y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas de concurrence. Concurrence, c'est
la concurrence.
Oui.
Ouais, la compétition, dans le fond.
Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est bien pour moi, ça me donne envie de faire des progrès. Et pour d'autres, pour des clients, pour d'autres béliers, ça donne l'occasion de se connaître plus. Ouais.
Et comme tu disais, même si ça fait longtemps que tu fais ton métier, tous les jours tu apprends, donc continuer d'apprendre ou d'échanger sur des processus ou des visions, c'est enrichissant de toute façon pour toi aussi.
Oui, au niveau de technique et tout, c'est peut-être c'est comme un boulanger, boulangerie, c'est ça?
Mm-hmm.
Oui, c'est quand on utilise avec nos mains, il faut travailler tous les jours. Oui, ça c'est vrai, parce que sinon
l'appel est lancé. Peut-être que d'autres artistes seront intéressés à aller regarder ce que tu fais. Aujourd'hui, puis ce serait pour conclure ce podcast, c'est quoi tes défis actuels? C'est quoi ce qui peut-être est le plus, un challenge le plus grand dans ton quotidien comme artiste? Qu'est-ce qui peut-être est une source de stress, positif ou négatif, mais qu'est-ce qui peut-être est ton grand défi en ce moment?
En tant que la personne qui fabrique des choses, le défi c'est toujours fabriquer, améliorer ma capacité. Ouais. Il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau de technique et puis il y a beaucoup d'idées qui se promènent dans ma tête. Et pour moi, imaginer quelque chose, c'est pas suffisant, parce que imaginer, c'est juste dans ma tête, et puis on peut pas savoir. Imaginer et ensuite créer des choses, c'est très important. Donc, penser à nouveaux pièces, c'est quelque chose qui est très difficile, mais quelque chose qui est très heureux, ouais.
Qu'est-ce qui, après ces années à CAPTCHA, tout ce parcours que tu as, les rencontres que tu as faites, si tu devais regarder ces dernières années, qu'est-ce qui pour toi peut-être est ta réussite que tu ne pensais pas avoir, ou quelque chose, une bonne surprise de ces années passées?
Bonne surprise. En fin de compte, je vois que ça revient aux gens que je me suis rencontrés. Ici, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'amis, mais quand même, il y a quelques amis que je commence à avoir des liens. Et des gens, ils sont belles. On est différents et puis on peut pas avoir la même avis pour toutes les choses, mais je pense que tous les gens que j'ai rencontrés, ils sont très très belles. Au niveau de physique aussi, mais plutôt mental, sa philosophie et tout. Et oui, c'est ça. Ça revient aux gens, hein, à la fin. C'est soit on travaille, on mange, je sais pas, mais ce sont des gens qui sont importants.
C'est vrai. Mais merci beaucoup d'être mis le temps, et il file trop vite, ça fait déjà presque une heure qu'on parle, alors écoute, merci beaucoup d'être mis comme il y a, d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir partagé un peu ta vie, ton histoire, ta carrière, ta passion, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi pour m'inviter, et puis je vous souhaite bon été, oui, c'est ça.
Ouais. Si vous avez des questions, des commentaires ou des encouragements à transmettre à mon invité, écrivez-moi pour que je lui dise hélène@lebontraitunion.com. Tatsumi, je ne t'avais jamais rencontré en personne avant, j'ai seulement vu ta façon de souffler le verre et de regarder la nature en vidéo. Je t'ai vu aussi avec Satomi sur d'autres images et dans un cadre de neige, et je me suis dit que c'était beau, qu'il fallait être à la fois têtu et capable de lâcher prise pour suivre ce destin, loin de ta terre natale, loin des standards de production, loin de la compétition, et de prendre le temps de partager ton savoir, ton expérience d'artisan et d'immigrant. Ça prend de la magie pour transformer un ancien garage en atelier de verrerie, transformer aussi un petit village de la Gaspésie en maison et pour préserver un savoir-faire qui s'oublie mais qui fait rêver. Merci Tatsumi de mettre le beau avant le futile et un peu de poésie dans notre monde. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous. J'ai l'habitude de dire jeudi prochain, mais parfois je rate le rendez-vous, alors j'y vais plus cool l'été, comme vous le voyez. Je vous dirai seulement rendez-vous sous peu pour un nouvel épisode de Café Noir et Tableau Blanc. Et d'ici là, vous aussi, jouez de transparence comme le verre. Créez-vous donc des arcs-en-ciel. Et pourquoi pas, passez voir Tatsumi et son atelier magique. Mais surtout, prenez soin de vous.
私は思い出す消えちまった街を幼い頃によく遊んだ場所さそして私は思い出す消えちまったあの子を腕を組んで歩いたものさおしゃれなカフェなんてなかった頃さ咲いていた花たちも今は一輪もない一度思い出す消えちまった街を切ない恋の実があの川を流れてゆく君はこの街に帰ってくるだろうか遠くで暮らす小さな花よ私はまた旅に出る風の吹くままに巡るめく景色の中に浮かぶ幻 私には見える気がするあの思い出の街が川沿いに咲いているあの美しい花たちももう一度思い出すあの時の君を 一緒に歩いたあの街角を腕を組んで歩いたあの街角を La 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 la